Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite bienvenue sur la saison 2 du podcast Le futur, c'est maintenant. Pour cette nouvelle saison, je vais aller à la rencontre d'acteurs majeurs en France, mobilisés pour l'éducation, l'insertion professionnelle et l'innovation RH. Un seul objectif, leur donner la parole le temps d'une heure pour faire rayonner leurs initiatives en faveur de l'emploi. Je m'appelle Paul Foutrel, je suis entrepreneur et cofondateur de l'entreprise Grim. Et comme vous le savez déjà, notre raison d'être, c'est de faciliter l'accès à l'emploi pour toutes et tous, avec un brin de technologie. Je vous souhaite évidemment une belle écoute. Je suis ravi de te recevoir sur cet épisode, Olivier. C'est la deuxième fois qu'on se croise. Ça va être spontané aujourd'hui. De manière très classique, je vais te demander de te présenter. On va parler un petit peu de la jeunesse d'Idozo. On va revenir aussi sur comment tu as structuré la boîte. Ça fait un petit moment, 16 ans je crois que tu as monté Idozo, c'est ça ?
17 ans. 17 ans en 2007, ouais.
Yes. Et puis, ouais, tes ambitions pour la suite. Et puis, je serais très curieux aussi pour moi-même, mais aussi pour les potentiels auditeurs, de comprendre quels sont les métiers dans une agence de communication comme Idozo. Alors, je ne sais pas si tu appelles ça une agence de communication, mais c'est peut-être un peu plus large maintenant.
Fut un temps, on appelait ça effectivement un peu un courtier d'espace d'emploi, en fait.
D'accord.
Parce que c'est vrai, d'un point de vue candidat, les sites emploi, on a l'impression que tout est accès, tout est gratuit, en fait. Mm-hmm. Mais derrière, il y a bien quelqu'un qui finance. Et qui est-ce qui finance ? Effectivement, c'est les entreprises qui achètent de la publicité, qui achètent des CV tech, voilà. Et c'est vrai que les candidats, on a un métier qui n'existe pas au niveau des candidats, mais nous, le candidat nous intéresse parce qu'aujourd'hui, on aime bien connaître son comportement, savoir c'est quoi ses modes de consommation, où est-ce qu'il consomme de l'emploi.
Ouais.
Donc ça nous intéresse. Donc oui, effectivement, on est une agence de communication parce qu'on met en avant le produit qui est l'offre d'emploi, en fait. Mais aujourd'hui, le métier a quand même fortement évolué parce qu'il y a tous les outils marketing qui arrivent. Donc, recruter, effectivement, aujourd'hui, c'est apporter de l'attractivité, montrer la valeur ajoutée de ta boîte, etc. Donc, c'est transformer l'annonce en un produit pour, effectivement, séduire et sélectionner des candidats, quoi. Voilà.
C'est-à-dire de bien connaître le sujet. Tu sais ce qu'on va faire ? On va commencer par présenter Idozo et puis après, je vais te demander de te présenter, Olivier.
Ouais, pas de souci. Alors, moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine dit des job boards, en fait.
Okay.
Voilà. Déjà, la formation, j'aimais bien. Si tu veux, je suis sorti post-bac.
Ouais.
J'ai fait un bac B, en fait, hein, économie.
Ouais.
Je suis arrivé, je suis originaire de Châteaubriant, qui était une petite banlieue à 60 km de Nantes. Et puis, comme tout le monde, tu as envie de voir la grande ville. Et puis, tu as envie d'aller à la fac pour faire la fête.
Ouais.
Et puis, j'ai choisi droit et j'étais plutôt de travers. Parce qu'au bout de 3 mois, j'ai quitté la fac. Et puis, à l'époque, les auditeurs ne s'en souviendront pas, mais il fallait faire son service militaire.
Ouais.
Donc, j'ai devancé mon service militaire. Et là, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas 24 mois de service militaire et pourquoi pas devenir militaire demain.
Ouais.
Mais l'amour t'attrape et te dit, aujourd'hui, ma femme me dit, jamais j'épouserai un militaire, donc il va falloir que tu fasses un autre métier.
Ouais.
Et quand tu fais un an de fac de merde, 2 ans d'armée, tu ne sais plus apprendre, lire, écrire, etc. Donc tu es obligé de te re-challenger. Puis, ça, c'était en 92, donc tu es obligé de dire, faut au moins que j'ai un bac plus 2. Donc là, je me suis remis à chercher effectivement une alternance.
Ouais.
Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, en 92, maintenant l'alternance est rentrée dans les mœurs.
Ouais.
Mais en 92, trouver un centre de formation et trouver une boîte dans l'alternance, c'était compliqué parce que les gens n'avaient pas l'habitude. On faisait des BTS, Action Co, normales. Mais l'alternance était un peu moins déployée. Donc effectivement, je suis passé par l'alternance pendant 2 ans. Et là, je suis tombé déjà dans la formation puisque j'étais au syndicat de la coiffure.
Okay.
Et on gérait effectivement tout ce qui était lycée professionnel. Donc, je suis déjà tombé entre guillemets dans la formation, dans l'emploi, etc. Voilà. Et comme j'étais très adepte de l'informatique, en 2000, j'ai vu une annonce sur un site qui s'appelait EmailJob, qui envoyait des offres d'emploi ciblées. Et à l'époque, les offres d'emploi, les sites, on n'allait pas voir les sites. On était surtout abonné à Internet pour accéder effectivement à sa messagerie. Et là, c'est là que je suis tombé effectivement sur le monde des job boards, puisque EmailJob, c'était un premier site précurseur. Et là, c'est là que j'ai commencé 2000-2004 EmailJob. 2004-2007, j'étais responsable de l'Ouest de Keljob et de Cadre Emploi.
D'accord.
Et en 2007, j'ai voulu... J'ai jamais voulu être par nature entrepreneur parce que mes parents sont des ouvriers.
Ouais.
Donc, j'avais pas cette nature comme dirait Anthony Bourbon, je fais partie des 1% des gens qui ne devraient pas être entrepreneurs, quoi, tu vois.
Une voilà. anomalie, quoi.
Une anomalie, voilà, exactement, exactement, une anomalie. Mais moi, en fait, je suis devenu entrepreneur parce que j'avais une soif de liberté, en fait.
Ouais,
voilà.
C'est ça ton drive.
C'est ça mon drive, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est d'être libre. Ouais. Je suis un homme libre, on m'a appris à être un homme libre, à réfléchir de moi-même. Ouais. Et voilà. Et c'est là que je me suis dit, bah voilà, je vais créer mon agence de com RH et communication. Puisque aujourd'hui, tout le monde passe par la presse pour diffuser ses offres. Mais le digital est là, j'en fais depuis 7 ans. Mais il n'y a pas de gens qui te vont te conseiller un plan de com sur 2, 3, 4, 5 sites en fait. Voilà. Mmh, okay. Donc voilà comment je suis parti à créer I2O en fait. Voilà.
Et du coup, tu avais quel âge quand tu as monté ça ?
Alors,
avec des associés ?
Alors ouais, je suis parti avec un associé.
Ouais.
J'avais 33 ans.
Ok, mon âge.
Je quittais un job plutôt bien payé, un poste de cadre avec une voiture de fonction, etc. Ouais. Tu vois, une maison sur le dos et 4 enfants à charge. Le dernier avait moins de 6 mois, en fait. Okay. Voilà. Et là, en fait…
T'es parti au combat.
Mais en fait, là, t'as pas le droit de regarder dans le rétroviseur.
Ouais.
Alors, voilà, moi, c'était la soif de liberté qui m'a drivé. Mm-hmm. Mais c'est bien, mais c'est surtout t'as pas le droit de regarder dans le rétroviseur.
Et ta, la première offre que vous avez fait, le premier client, ça s'est passé comment ?
C'était rapide. C'était rapide parce que comme on avait déjà notre notoriété dans l'Ouest, on connaissait déjà des clients dans l'Ouest, c'était simplement de leur dire, bah, t'as l'habitude de traiter en direct, bah, passe plutôt pour moi et moi, je vais te conseiller effectivement de façon objective. Mm-hmm. Là où je te conseillais avant d'acheter du CalJob, là, je vais pouvoir te conseiller pour acheter du Viadeo à l'époque, du Monster, etc. etc. Voilà.
Donc, tes clients, c'était des entreprises qui voulaient gagner en visibilité via leurs annonces d'emploi, via leur marque employeur, travailler leur marque employeur dès le début, finalement.
C'était déjà d'arriver sur Internet, quoi, en fait. Okay. Voilà. Aujourd'hui, ça paraît tellement logique d'aller consommer de l'emploi sur LinkedIn, sur Indeed, sur Hello Work, sur Météo Job. Mm-hmm. Mais à l'époque, il y avait très peu de sites et les gens continuaient à consommer de l'emploi par la presse, en fait. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette bascule où toute la publicité est basculée sur Internet, en fait. Voilà. Et donc, là où on a été précurseur, c'est de se dire, de toute façon, le modèle presse est mort et ça sera 100% digital, en fait. Voilà.
Et tu as appelé ça I2O ?
J'ai appelé ça I2O parce qu'à l'époque, effectivement, on était 3 personnes à réfléchir. Mm-hmm. Il y avait Yvan, en fait. I pour I2O, Yvan. Ouais. Et comme on était 2 Olivier... Bah, mon beau-père a dit, bah, vous devriez le faire phonétiquement, I2O, en fait. Voilà. Et comme sur Internet, ça n'existait pas, ce nom, bah, on s'est dit, au niveau référencement, ça sera génial. Quoi. Bah, voilà, au niveau SEO, ça sera tranquille. Quoi, en fait. Voilà. Bah,
super intéressant. Et aujourd'hui, en 2024, vous êtes combien de personnes chez I2O ? Comment tu as structuré l'agence ?
Alors,
il y a toute une évolution. En 17 ans, il s'en est passé des choses.
Alors oui, alors... en fait, il y a des étapes. Quand on veut être entrepreneur, c'est vrai que des fois, on a l'impression que ça va plus vite avec les levées de fonds, avec les choses comme ça.
Ouais.
Voilà. Et puis aujourd'hui, les gens sont un peu plus intelligents. On essaye de faire travailler son écosystème, on essaye de comprendre. Mais nous, à l'époque, on est parti from crash, en fait.
Ouais.
Et
bon sens paysan, presque.
Bah, exactement, c'est exactement. Le bon paysan, voilà, exactement. Et puis après, le bon sens commercial, voilà. Ouais. Bah, c'est, tu décroches ton téléphone, tu y vas matin, midi et soir. Mais c'est surtout, en fait, les 10 premières années. Mm-hmm. Les 10 premières années, déjà, les 3 premières années, tu es content parce que tu arrives à te payer. La 5e année, 7e année, tu es encore en vie, tu as commencé à embaucher du monde.
Ouais.
Et c'est vraiment au bout de 10 ans que tu te dis, ouais, ça y est, ma boîte, elle devient solide, en fait. Voilà. Donc, pour être entrepreneur, j'ai appris qu'il fallait être résilient, en fait. Voilà. Et donc, ça nous emmène effectivement de 2007 à 2017, 2018. Et c'est là que moi, j'étais ambitieux. Je me suis dit, ça y est, là, je vais accélérer. Mmh. On était une petite quinzaine. On faisait 20 millions d'euros d'achats médias, en fait. Et là, je me suis dit, il faut régionaliser. Je vais embaucher du monde. Moi, mon écosystème, c'était aussi des anciens copains. Donc, en fait, des gens qui avaient travaillé chez moi, chez CalJob, chez Cadre Emploi, etc. Et on a régionalisé, on a accéléré. Et puis là, mars 2020, t'as le Covid qui arrive et tu dis en fait, j'ai pris un pari, j'ai investi comme un fou et là tout s'arrête du jour au lendemain et là tu te dis t'es capitaine du bateau et tu vas en bas du bateau et tu bois tout le rhum qu'il y a ou soit tu remontes sur le pont et t'essayes de driver ton navire, voilà.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a fait. Nous, on a été hyper agressifs pendant cette période Covid et post-Covid.
Vous n'êtes pas mis en chômage partiel?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. On est resté un mois et demi. Et après, on était comme des lions dans une cage. Ouais. Et c'est là qu'on a accéléré. Et c'est là qu'effectivement, depuis 2020-2024, on a fait x5 en chiffre d'affaires et x3 en effectif, x4 en effectif.
Vous êtes combien, là, chiffre d'affaires ?
Maintenant, on doit être une bonne cinquantaine. Tu vois, j'arrive plus à compter.
Ouais, c'est un bon
et puis pour plus compter, j'ai embauché une RH.
D'accord.
Le plus beau métier du monde, parce que voilà.
Ça te libère aussi.
Ouais, ça me libère.
Pas mal de sujets, j'imagine.
Ça me libère du temps. Puis après, ton entreprise se structure, tu grandis avec elle, mm-hmm. parce qu'au départ, t'es commercial, tu découvres ce que c'est la comptabilité, au fur et à mesure, en fait, faut pas hésiter à te dire, comme diraient les jeunes, tu glow up en tant qu'entrepreneur, et faut toujours apprendre. Et puis faut toujours accepter que de toute façon, si tu veux que ton entreprise progresse, c'est d'embaucher quelqu'un qui est plus intelligent et meilleur que toi.
Ouais. Voilà. Et comment, du coup, comment sont passés les premiers recrutements chez Deux Eaux? Comment tu es allé chercher les candidats?
C'était le réseau. C'était un pote.
Ouais.
C'était de la diffusion d'annonces sur Internet, on le faisait.
Ouais.
Mais c'est surtout de la cooptation, en fait, des
D'accord.
gens sur lesquels tu as envie de te confier, des gens qui croient en toi, qui te connaissent, qui mmh. connaissent déjà ton parcours, mmh. ce que tu as réalisé en fait. Voilà. La première personne que je me souviens, effectivement, quand j'ai ouvert Lyon en 2013, c'était un ancien copain, Stéphane Doucet, mmh. qui est encore présent, tu vois, depuis, ça va faire 11 ans, tu vois, qu'il est là. Je suis allé chercher Stéphane.
Mmh.
Il me connaissait, je le connaissais. Et en fait, c'est une question de confiance. Donc au départ, on a bâti les premières personnes avec des gens de ton entourage professionnel, etc. Quoi. C'est comme quand tu fais ta première levée de fonds, c'est un peu la love money, quoi, en fait. C'est ton
ça,
entourage.
C'est,
voilà.
C'est plus facile.
Exactement.
D'où l'importance du réseau professionnel.
Tout
que
à fait.
Que ce soit à l'école ou dans tes premières expériences.
Exactement.
Tu as pu capitaliser là-dessus. Ouais.
Exactement.
Super. Et tu peux me parler un peu des offres de I2O? Comment vous accompagnez vos clients aujourd'hui, Olivier? Il y a plusieurs offres, j'imagine.
Alors, pour comprendre le métier, parce que des agences de communication,
il y en a plein, ouais.
Il y en a 5000 en France, tu
ouais.
vois. Il y en a des très grosses, des Publicis, des Havas.
Ouais.
Puis après, tu as plein de petites agences, voilà. Mais des agences de communication qui s'occupent de l'emploi, on va dire, il y en a une petite quarantaine en France, tu mmh. vois, voilà. Et puis, tu n'en as vraiment qu'une dizaine et qu'un trio de 6 ou 7 qui trustent le marché, en fait. Voilà.
Donc ça, c'est votre singularité, finalement.
Exactement, exactement.
Vertical, emploi.
Et voilà, on est spécialisé, effectivement, pour aider les entreprises. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, moi, je lance un produit, faut que tu achètes des espaces publicitaires sur la télévision, c'est pas mon métier.
Mmh.
Voilà. Moi, mon métier, c'est aider les RH à identifier les meilleures solutions pour qu'ils puissent recruter, en fait.
Mmh.
Voilà. Donc, nous, on n'a pas de... Je le dis toujours, des fois, on vend le vent des autres, en fait.
Mmh.
Donc, c'est une relation, déjà, confiance qu'on doit avoir avec les RH. Et surtout, on est un peu comme une marketplace. Hein, et on aide, effectivement, de l'autre côté, on a des partenaires qui sont, effectivement, LinkedIn, Indeed, Hello Work, etc. En fait, on en a pas loin de 250.
Mmh.
Qui, eux, effectivement, cherchent à commercialiser leurs solutions. Mmh. Voilà.
Leurs solutions, du coup, pour que les RH, les entreprises,
voilà.
gagnent
puissent diffuser leurs offres d'emploi,
ouais.
puissent communiquer ou puissent accéder, effectivement, mmh. à des outils pour venir chasser des candidats, en fait. Voilà.
Moi qui travaille dans l'univers de l'éducation avec beaucoup d'écoles, d'établissements d'enseignement supérieur, lycée pro, CFA, etc., tu as une relation avec des organismes de formation aussi, si je ne me trompe pas.
Alors oui, on a quelques organismes de formation, en fait.
Mmh.
Mais surtout, sur la partie job étudiant, etc., on travaille énormément avec Job Teaser, en mmh. fait, voilà, aujourd'hui. Il reste le leader, etc. On cherche des fois d'autres solutions et j'espère que Grim prendra sa place dans cet écosystème.
Merci pour le clin d'œil. Merci pour le clin d'œil. Oui, c'est un sacré mastodonte, effectivement.
Exactement.
Ouais.
Mais sur la partie, effectivement, il y a beaucoup à faire parce qu'en fait, Aujourd'hui,
les jeunes diplômés,
c'est le premier contact avec l'entreprise, en fait. Mm-hmm. Voilà. Et des fois, en général, quand tu as un premier contact, tu n'as pas déjà établi ton réseau. Mm-hmm. Donc déjà, même, y a peu de personnes qui viennent spontanément sur LinkedIn. Mm-hmm. Ils viennent parce qu'ils ont commencé à être sur comment avoir un premier parcours professionnel. Ils puissent commencer à engranger, quoi, en fait. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est hyper important et même ça devient aujourd'hui stratégique. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir que les 10 prochaines années, il y a 700 000 personnes qui partent en retraite, mm-hmm. mais il y aura que 600 000 jeunes qui arriveront, en fait. Mm-hmm. Donc ces jeunes, déjà les jeunes ont la chance de connaître, entre guillemets, je ne vais pas dire le plein emploi, mais la possibilité effectivement de saisir des belles opportunités, là où des fois, ça a été long, effectivement, quand tu dois te décrocher ton premier emploi. Donc ça c'est une chance, voilà. Mais ça devient stratégique effectivement pour les entreprises, mm-hmm. de capter ces jeunes-là, en fait, hein, parce que ça peut être aussi un premier emploi qui te permet d'accéder à ton premier CDI et de pouvoir perdurer dans le temps, en fait. Voilà.
Il y a même des chargés de relations école maintenant dans les grosses boîtes corporate, postes qui se créent comme ça.
Oui, c'est vrai, mais c'est de plus en plus dur pour les grosses boîtes, en fait.
De créer du lien avec les écoles.
Mais c'est pas ça, c'est parce que les jeunes ont changé, en fait.
C'est
vous
vrai.
Qui nous écoutez, vous avez changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait la voie royale, on faisait des bonnes études.
Ouais.
À la fin du cycle scolaire, on avait les grandes entreprises du CAC 40 qui arrivaient, qui disaient... Voilà mes postes, voilà mes choses, venez, et on accédait comme ça. Et c'est vrai que les grandes entreprises captaient énormément.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, les jeunes, ils ne veulent plus forcément rentrer dans une grande boîte, en fait.
Ouais.
Voilà. Parce que ils ont un critère qui est vraiment ressorti aujourd'hui et que le Covid a renforcé, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vous cherchez tous à rentrer dans une boîte qui vous donne du sens dans
tout
votre vie, en fait.
De l'impact, voilà. Du sens, peut-être un lien avec la planète aussi.
Exactement.
Ouais.
Donc des fois, effectivement, il y a des jeunes qui se disent « Non, moi, je cherche peut-être une petite PME,
ouais.
qui va avoir de l'impact, qui va changer quelque chose, qui va révolutionner, etc. Et » Et c'est vrai que là, c'est un enjeu pour les grandes sociétés du CAC 40 ou même plus, d'attirer cette population, mm-hmm. et de se transformer, quoi.
Mm-hmm.
Voilà. Donc oui, je pense que les jeunes aujourd'hui ont cette chance-là. Et puis, accéder effectivement à l'emploi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Et puis, il ne faut pas oublier, effectivement, moi, je le dis toujours, mais des fois, un recrutement sur trois, c'est de la cooptation.
Mm-hmm.
Donc, il faut travailler son réseau. C'est hyper important de travailler son réseau, en fait.
Voilà. Aujourd'hui, chez I2O, vous recrutez comment? Par tous les leviers, les moyens, j'imagine. Vous avez des alternants aussi, stagiaires?
Quand tu es une plus petite boîte, on était encore, il n'y a pas si longtemps, 20 ou 30,
ouais.
c'est compliqué d'accueillir. En fait, je voulais accueillir correctement les gens, en fait.
Ouais,
voilà.
Et, pas trop surstaffé, et de ne pas pouvoir accompagner les gens.
Exactement, exactement.
Je ne sais pas combien de temps il faut, mais je crois qu'en moyenne, c'est 6 mois pour être opérationnel.
Ouais, c'est
si
clair.
Tu prends 10 personnes et que tu n'as pas les ressources humaines, l'accompagnement nécessaire.
Exactement.
Il y a de la casse.
Voilà, exactement. Donc.
Donc tu as pris le temps de recruter intelligemment.
J'ai pris le temps, oui, tranquillement de recruter. Et aujourd'hui, moi j'ai réussi à recruter par mon réseau. Mais si tu veux faire grandir aussi ton entreprise, tu es obligé d'aller chercher d'autres compétences qui viennent d'autres univers qui peuvent t'apporter autre chose. Donc aujourd'hui, je suis comme tout le monde, je diffuse une annonce, on poste sur LinkedIn, on poste sur toutes ces plateformes qui existent.
D'accord.
En fait, voilà. Et puis on travaille effectivement aujourd'hui sa marque employeur, on a des pages sur Welcome pour dire que ta société elle est belle, elle fonctionne bien, etc. Voilà, donc les entreprises doivent travailler, mais attention, et c'est là que nous, notre niveau de professionnalisme c'est important, communiquer pour dire que tu vends du goodies, t'as un baby foot, etc.
Mm-hmm.
Ça maintenant je pense que les jeunes ils sont pas dupes.
Oui.
Ce qu'ils veulent, c'est de l'authenticité, en fait.
Mm-hmm.
Ce qu'ils veulent, c'est un vrai projet.
Mm-hmm.
Et ils ne veulent pas, effectivement, qu'on vende de la com, de l'effet de mode, etc.
Mm-hmm.
Ils veulent vraiment vivre et connaître, effectivement, surtout le parcours, en fait. Voilà.
Ouais.
Voilà. Parce qu'il y a une espèce de blackout entre quand j'envoie ma candidature et de l'autre côté, tu as des recruteurs qui disent « moi, je n'ai pas le temps ». Donc, il y a beaucoup de recruteurs ou beaucoup de candidats qui se disent en fait, on n'arrive pas à se retrouver.
Mm-hmm.
Alors que c'est antinomique, pourtant, Internet devrait faciliter. Quoi.
Ouais, les relations humaines.
Exactement.
Parfois, ça, on parle de réseaux sociaux, mais
voilà.
Le côté social, des fois, il est spécial.
Exactement, tout à fait.
Et qu'est-ce qui est important, du coup, chez toi, peut-être en lien avec les valeurs d'I2O quand tu rencontres un candidat. Qu'est-ce que tu attends de ce candidat ?
Alors, c'est au départ, tu as à peu près tes valeurs. Et tu vois, moi, au bout de 17 ans, je me suis reposé la question. On est passé par un consultant externe. Et là, on a vraiment établi effectivement les vrais piliers, en fait. Voilà.
D'accord, tu appelles ça des piliers.
Ça s'appelle des piliers. Et c'est ce qu'on fait, nous, quand on fait, quand on met en place une marque employeur chez I2O. C'est effectivement, on va questionner des collaborateurs. On va questionner effectivement ce que veut présenter l'entreprise. Et surtout, les piliers sont importants, en fait. Et chez nous, on a quatre piliers chez I2O. Des piliers qui sont historiques. C'est-à-dire que c'est un pilier de se dire... Bah, on veut travailler dans le plaisir. Voilà. Moi, je veux que le matin, quand on arrive au bureau, on se dit, je débute ma journée. Parce que souvent, des fois, j'entends des gens qui se disent, moi, ma journée, elle commence à 17h. Quand je sors du bureau et que je vais aller boire un coup. Moi, j'adore que mes collaborateurs me disent, bah, moi, on arrive à 9h. Et là, notre journée commence, en fait.
Ouais,
donc, c'est travailler dans le plaisir. C'est hyper important, en fait. L'autre valeur, effectivement, c'est une valeur innovation. Quand tu deviens champion, tu as aussi une valeur, entre guillemets, ou de leader de ton marché, une valeur d'exigence, en fait. Voilà. Et puis, c'est con parce que je ne me souviens plus de la quatrième pilier, mais je vais retrouver. Voilà.
Et là, je te demandais aussi, en parallèle de cette question, au-delà de tes valeurs, de ces piliers, parce que je pense que c'est tu les portes en toi au quotidien. Donc, c'est vrai que mettre les mots dessus, c'est dans l'attitude aussi, c'est dans le quotidien. Ma question, c'était du coup, chez un candidat, qu'est-ce que tu attends, tu vois, lors d'un entretien d'embauche? Parce qu'il y a tout un process, j'imagine, ça ne se passe pas en une seule étape. Tu vois, souvent, moi, quand j'interviens dans les écoles, j'ai l'impression que les jeunes, on doit leur expliquer que c'est plusieurs étapes, ce n'est pas juste envoyer un CV. C'est pour générer un entretien, c'est plusieurs étapes, c'est de la relance. Et parfois, il y a un exercice technique, parfois, on rencontre un interlocuteur de la boîte, le futur manager, jusqu'au dirigeant, peut-être, en fonction du poste. Et chez vous, ça se passe comment, le process de recrutement, et qu'est-ce que tu attends du candidat ?
Alors, c'est ce que je dis, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une RH qui nous a mis effectivement tout un tas de process pour déjà répondre aux candidats. En fait, c'est hyper important.
Ouais. Répondre. Beaucoup de jeunes qui se plaignent, bah moi, on me répond pas.
Ouais.
Si avec la technologie, on peut améliorer ça.
Non, mais c'est le fameux blackout, en fait. C'est inadmissible aujourd'hui que tu postules et que tu reçois un mail en disant... si vous n'avez pas de réponse dans 5 à 6 semaines, considérez que la candidature, elle est. Voilà. Ça donne une très mauvaise image aux entreprises. Et des fois, ça a un lien aussi avec le business, en fait. Quand on est une entreprise du retail et qu'on traite très, très mal son candidat, et ben de l'autre côté, ça donne une très mauvaise image. Et tu te dis, demain, je ne vais plus aller dans la boutique et je vais aller ailleurs, en fait. Voilà. Donc, accueillir correctement un candidat. Lui expliquer le parcours, le process, en fait. Donc là, il y a très peu de transparence. Nous, on milite chez I2O pour que les RH, effectivement, aujourd'hui, expliquent le process. Parce que aujourd'hui, les jeunes, ils ont l'habitude, quand on commande sur une plateforme comme Amazon, t'imagines si Amazon te disait « J'ai bien reçu votre commande de chaussures. » Et si dans les 3 semaines, vous n'avez pas de retour de vos chaussures, considérez qu'on ne pourra pas vous faire la commande. Mais tu ne reviens plus sur Amazon.
Et puis tu te fais allumer sur ta notation.
Mais bien sûr, tu ne reviens plus.
Sur ta marque employeur.
Donc il manque effectivement toutes ces étapes, en fait, aujourd'hui, pour les entreprises, de dire, on a bien reçu votre candidature.
Voici le process.
Voilà. Ouais. Micheline a bien traité votre CV.
Ouais.
C'est parti chez le manager.
Ouais.
Vous allez être rappelé, vous allez avoir 2 ou 3 entretiens.
Ouais.
Oui, c'est important aujourd'hui. Et en fait, peu d'entreprises expliquent déjà en amont ce parcours-là, en fait. Voilà.
Et du coup, chez I2O, vous faites ça comment ?
On ne l'a pas encore tout à fait correctement fait, je te l'avoue.
Ouais. C'est bien,
moi, tout à fait. Ouais,
merci
pour
la transparence.
Mais déjà, effectivement.
Il y a quand même quelques étapes, j'imagine.
Mais bien sûr,
Tu ne prends pas tous les candidats en direct.
Non. Bah, déjà, ça passe. Déjà, moi, je ne fais plus de recrutement parce que.
Tu fais confiance à tes équipes.
C'est ma RH, voilà. Donc, effectivement, le but, c'est que la RH, déjà, traite les CV, d'au moins, tu vois, voilà. On puisse, effectivement, les sélectionner.
Ouais.
Et
vous avez des outils pour ça ?
Non, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus un volume énorme.
Ouais.
Non, voilà.
Ouais.
Mais effectivement, en tant que professionnel, nous, on conseille des ATS, en fait, des outils de gestion de candidature auprès de nos clients pour qu'ils traitent effectivement ces étapes-là, en fait. Voilà. Et donc, ce qui est important, moi, la fonction RH est très importante dans le process du recrutement, en fait. Et après, c'est de présenter effectivement l'équipe managériale sur laquelle tu vas faire. Et puis aussi, des fois, c'est de valider avec tes futurs collègues, en fait. Voilà. Ouais. C'est hyper intéressant qu'il y ait 2-3 personnes de la société, dans son intégralité, qui puissent rencontrer le candidat. Rencontrer le patron aujourd'hui, ça peu importe, en fait. Mm-hmm. Tu vois. Parce que tu ne vas pas travailler avec le patron, tu vas travailler avec une équipe, en fait.
Tu as raison, c'est un collectif. Voilà. Même si des fois, on image les patrons, je sais pas, au hasard. Je prends Elon Musk avec Tesla. Avec Tesla, c'est pas Elon Musk.
Mais non, mais non.
Et Idoso, c'est pas que Olivier.
Non, avec
même
ça.
Même si elle est au haut de.
Mais bien sûr, mais quand tu grandis, effectivement, sûr, à un moment donné, c'est plus. Ouais, ouais. Mais voilà. Mais c'était. Je pense que. J'insiste sur ce fait de blackout.
Ouais.
Et c'est vrai qu'il y a aussi les plateformes qui doivent un peu faire le tri. Mmh. Entre toutes les annonces qui sont des fois dupliquées, surdupliquées, etc.
Ouais,
ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, tu as des annonces qui n'ont pas réellement de poste, mais ça sert de sourcing en permanence.
Ouais.
Donc
c'est
ça,
des fake annonces, des fausses annonces.
C'est pas des fakes, c'est comme on est sur
C'est pour créer un vivier de candidats.
Oui, voilà. Ouais. Comme on est sur des métiers pénuriques,
ouais.
Eh ben, effectivement, tu vas avoir des annonces en permanence qui vont tourner, en fait. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que des fois le candidat se dit mais en fait c'est du fake.
Ouais.
Mais c'est pas mais il faudrait distinguer effectivement en disant des fois au candidat ça c'est un poste parce que on n'a pas tout de suite la mission mais on sait qu'on peut l'avoir en fait.
D'accord.
D'un poste qui est immédiatement ouvert,
ouais.
Ou même des fois parce que aujourd'hui c'est un poste qui va être remplacé en fait.
Mm-hmm.
Voilà. Parce qu'aujourd'hui là, c'est vrai que le marché du travail, on va moins créer d'emplois aujourd'hui. Parce que effectivement la croissance est un peu moins au rendez-vous,
mm-hmm.
Mais par contre de tout temps il y a eu un effet de turnover en fait,
mm-hmm.
Et donc renseigner de plus en plus le candidat sur est-ce que tu vas remplacer quelqu'un, est-ce que c'est une création de poste,
ouais.
Est-ce que c'est simplement tu vas répondre à une annonce qui va être pénurique, je pense que le candidat,
ouais.
A aujourd'hui le recruteur a des devoirs, mais on n'en est pas là aujourd'hui,
mm-hmm.
Tu vois, on est en train de se battre en ce moment. Et les plateformes ont compris, tu vois, les plateformes emploi, déjà de mettre simplement le salaire, en fait.
Ouais, la transparence.
La transparence du salaire.
Au moins la fourchette.
Voilà. Exactement.
Parce qu'après, c'est
exactement.
Un égo, c'est ta tambouille interne, toi,
voilà,
ton
voilà.
Candidat, mais au moins
parce
la fourchette.
Que,
parce que c'est le critère numéro un, quoi.
C'est, voilà, exactement. Le critère numéro un, c'est 3 aspects. C'est le salaire, le poste et la zone géographique.
Mm-hmm.
Voilà.
Et puis après, la culture d'entreprise, les missions,
oui,
ouais,
oui,
c'est important aussi, mais... On choisit aussi par ces critères-là.
Exactement. Exactement.
Et parfois, on n'ose peut-être pas trop se le dire ou l'afficher. On a peur de...
En France, aux États-Unis, ouais. T'arrives, on t'affiche ton salaire. Quoi,
ouais,
tu vois.
C'est clair.
En France,
ouais.
On a encore cette culture-là.
Mais maintenant, je crois que chez France Travail, surtout beaucoup de plateformes d'emploi, on le voit de plus en plus.
Oui, il y a des conseils.
Ouais.
Il y a des conseils.
Ça reste...
Voilà.
Pas forcément obligatoire quand on est recruteur de...
Alors maintenant aujourd'hui, certaines plateformes, par exemple comme Hello Work, aujourd'hui, même si le recruteur ne met pas le salaire, en fait, Hello Work va suggérer, effectivement, en fonction des statistiques, etc., des données INSEE,
ouais.
Ce que pourrait représenter le salaire, en fait.
Ouais, c'est important. Voilà. Parce qu'en plus, en tant que candidat, des fois, on n'ose pas trop...
Oui,
ou
des fois il y a une adéquation entre ce qu'on t'apprend,
ouais.
Tu as des profs qui vont te dire non mais de toute façon tu as fait tel diplôme,
ouais,
tu vas sortir, c'est 50 000
c'est
35, balles,
ouais.
C'est machin, il faut
ouais.
Pas que tu te vendes,
ouais.
Ouais, mais en fait non, faut pas oublier que le marché de l'emploi c'est une question d'offre et de demande en fait.
Et puis il n'y a rien de pire que de rentrer dans un process de recrutement sur 3-4 étapes et découvrir le salaire à la fin et se dire ah,
mais
en fait si je l'avais su dès le début, je vous aurais pas fait perdre du temps et moi non plus.
Mais bien sûr.
Donc autant le savoir.
C'est comme si tu essayais une Ferrari, puis après que tu découvrais le prix, quoi. Tu dis, ah merde, elle est bien cette bagnole. Ah oui, mais je peux pas me la payer.
Tu roules pas en Ferrari, quand même ?
Non, pas du tout.
Pas encore. Et du coup, par rapport à. On parle beaucoup du candidat, des annonces d'emploi. Moi, j'aime beaucoup encourager les candidats que je rencontre, du coup, les étudiants aussi, principalement, à faire de la candidature spontanée.
Grave.
Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah bah, je
parce
milite.
Que le marché de l'emploi, il est caché aussi.
Je milite là-dessus. Effectivement, il faut aller... On milite tous les jours pour dire aux entreprises, les candidats, ayez une page carrière, en fait, pour
ouais.
Présenter votre politique, présenter les process, etc. Même si vous ne pouvez pas tout exposer dans une offre d'emploi, mais de toute façon, le candidat, l'offre d'emploi, c'est le premier produit, en fait, qu'il voit. Après, le candidat, il est plus bête.
Ouais.
il va faire une dizaine d'actions derrière. Mm-hmm. Il va aller voir les avis, mm-hmm. il va aller sur les réseaux sociaux, mm-hmm. et il va surtout aller sur le site carrière de l'entreprise. Mm-hmm. Et s'il n'y a plus d'informations, s'il n'y a pas d'annonces, s'il n'y a pas de choses comme ça, ah oui. Mm-hmm. Et donc, oui, aujourd'hui, les entreprises doivent exposer toutes leurs offres d'emploi sur leur site carrière. Et du coup, les candidats doivent aller découvrir effectivement ce que c'est. Voilà. Et pour le coup, pourquoi pas.
Laisser la place à la candidature spontanée.
Et laisser la place à la candidature spontanée, tout à fait.
Parce que des fois, on n'a même pas de poste ouvert, mais on a une super rencontre qui se crée avec le candidat et on se dit, bah tiens, pourquoi pas le laisser rentrer dans l'organisation. Moi, ça m'est arrivé de recruter des personnes dont je n'avais pas forcément ouvert de poste.
Ouais.
Parce que bon feeling, gros apport de valeur. On tente le coup.
Alors moi j'ai fait beaucoup ça de 10 à 30 personnes.
Ouais.
Et maintenant, bah, je rencontre un copain, je lui disais, quand tu es entrepreneur, tu as la chance de dire, bah ouais, je peux entreprendre et pourquoi pas créer un poste, tu vois. Ouais. Voilà. Moi tu sais, mon plus grand rêve un jour, tu vois, je vais te le dire, c'est de rencontrer un SDF et de lui dire, tiens, viens, je t'offre un job en fait.
Ouais,
voilà.
C'est ouf.
Moi c'est une fois dans ma vie, ouais. je veux le faire en fait, tu vois.
Ouais.
Voilà. J'ai pas encore le temps, j'ai pas eu l'opportunité, ouais. mais ça c'est génial.
Ouais.
Et de se dire que tu peux redonner la chance à quelqu'un,
ouais.
ça c'est moi, c'est mon plus grand pouvoir mm-hmm. en tant que chef d'entreprise, toi.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai parce qu'on change des vies d'une certaine manière.
Mais c'est grave,
parce
tout
que
à fait.
C'est pas juste prendre un nouveau collaborateur, c'est parfois toute une famille derrière, c'est toute une vie qui change, c'est un déménagement, c'est très puissant.
Donc, quand ton entreprise grandit, bah, tu dois te structurer, tu dois effectivement te dire, bon, il faut que je fasse attention, quand j'embauche, il faut faire un…
Ouais.
Voilà, tu as quand même, après un moment donné, une certaine gestion de tes effectifs.
Ouais.
Voilà.
Puis, tu as l'URSSAF aussi.
Oui, bien. Donc, mais non, les candidats doivent absolument les postuler en direct.
Ouais, même quand on n'a pas d'annonce, quoi, tenter le coup.
Mais
en plus, on n'en voudra jamais à quelqu'un qui est motivé, qui prend le téléphone ou qui va faire du porte-à-porte pour chercher un travail.
Mais exactement, c'est ce que j'allais dire.
On est tous passés
par là. Mais grave,
grave.
Et en plus, tu prends le contre-pied de tout le monde, en fait.
Ouais.
Rentrer dans une boîte et dire, je dépose mon CV, est-ce que ça serait…
Mais en fait, on devrait tous le faire maintenant.
Mais bien sûr,
parce
bien sûr.
On est tout le temps connectés sur les réseaux sociaux. On est bombardés de notifications, d'emails, de coups de téléphone, les RH pareil. Hein. Et puis des fois, on ouvre un poste. Alors, c'est bien ces plateformes, mais est-ce que c'est vraiment fructueux de mettre une annonce et de recevoir 300 candidatures? Ça, c'est… Peut-être qu'il faut en recevoir que 10 qualifiés. Et d'avoir des gens motivés comme ça qui viennent déposer leur CV, c'est peut-être aussi prendre le contre-pied, comme tu viens de le dire.
Exactement.
Il y a peut-être un coup à jouer en 2024.
Peut-être pour le candidat. Faut tout essayer de toute façon aujourd'hui. Toutes tes sources d'essais.
Ouais.
Et surtout, effectivement, venir avec son CV, etc. Mais moi, en fait, aujourd'hui, ce que je recherche, avant tout, si c'est des gens motivés.
Ouais.
Moi, je suis incapable de te dire aujourd'hui dans la boîte quelles études ont mes collaborateurs.
Ouais,
j'en sais strictement rien. Oui.
Ce qui compte, c'est les compétences.
Exactement, les compétences. Mais ça va être ça demain. Les compétences, c'est essentiel, en fait.
Ouais.
C'est bien, pour moi, effectivement, on a besoin de te former. Former ton esprit, former tes choses, etc.
Ouais.
Mais demain, les compétences, de toute façon, deviennent obsolètes.
Ouais,
en 2030, 65% des compétences que tu as aujourd'hui ne seront plus disponibles. Voilà.
Mm-hmm.
Donc là, il y a un enjeu aussi pour les entreprises de continuer la formation en permanence de ses collaborateurs. Dans l'IT, c'est 18 mois, en fait.
Ouais.
Voilà.
Ouais, ça bouge tellement vite.
Donc, le poste ne change pas, tu vois.
Ouais.
Le poste de commercial restera toujours un commercial.
Ouais.
Mais les compétences, il y a 20 ans, la compétence, c'était changer la cartouche du fax. Tu vois, voilà. C'est plus les mêmes compétences. Aujourd'hui, un commercial, on ne lui demande pas forcément de… tout de suite téléphoner, mais on lui demande de faire un peu plus de marketing,
ouais.
on lui donne d'autres produits, ils ont du hotspot, ils font pas du call froid, ils font du call chaud sur des choses, voilà, donc il y a du marketing qui est arrivé pour aider les commerciaux là-dessus, quoi. Voilà. Donc les compétences changent, et en plus avec l'arrivée d'IA, là ça révolutionne tout en fait aujourd'hui.
Enfin, je sais pas si vous jouez avec l'IA, mais vous le voyez passer dans l'univers de la RH, emploi, tu vois. Pour la création d'une offre d'emploi.
Oui,
alors, il y en a beaucoup de candidats qui utilisent même ChatGPT pour candidater.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, tu sais très bien.
Il y a des bons et des mauvais usages.
Non, mais tu sais très bien, l'IA existe depuis parce que ça aidait effectivement l'algorithme.
Ouais.
Là, on parle de l'IA générative, en fait. Voilà, c'est ça aujourd'hui qui est devant la scène. Donc oui, ça vient augmenter, ça permet effectivement... moi, je l'utilise, tu vois, aujourd'hui, des fois, pour me challenger des idées, en fait, tu vois.
Ouais,
j'aime bien me challenger des idées avec l'IA, tu vois.
Ouais.
Mais effectivement, l'IA a été intégrée aujourd'hui pour aider les recruteurs à créer des offres d'emploi.
Récupérer les mots-clés dans les CV aussi.
Exactement, exactement.
Ouais.
Et puis, de l'autre côté, les candidats, effectivement, eux... avec l'IA, ils vont effectivement créer un CV plus sympa, plus dynamique, etc. Quoi. Voilà. Donc là, ça arrive, mais on n'en est pas quand même encore à la révolution. Quoi,
non,
tu vois.
Non, non,
voilà.
Je te rejoins. Et du coup, chez I2O, il y a différents pôles, j'imagine, il y a différents métiers.
Oui, oui. Alors, donc...
Tu as plusieurs sites. Là, on est à Nantes aujourd'hui. Tu vas souvent à Paris.
Oui.
Et tu as ouvert Lyon.
Et non, puis on a des gens en région, on a des gens qui sont
en
télétravail, en remote, voilà. Parce qu'effectivement, il faut aussi que le candidat comprenne qu'aujourd'hui, une entreprise peut être polymorphe, en fait, tu vois. Donc, tu peux avoir des gens qui sont aujourd'hui au siège, qui travaillent. Des fois, on voit des entreprises qui proposent le travail à 4 jours, etc.
Ouais.
Ou des entreprises qui sont en total remote, voilà.
Mmh.
En fait, aujourd'hui, la chance, c'est que l'entreprise, avec le Covid, a essayé de remettre un petit peu l'équilibre vie perso, vie pro au cœur de ça, en fait. Voilà. Parce que t'imagines, du jour au lendemain, on était au taf, et du jour, on a dit à tout le monde, restez chez vous. Donc, et c'est génial, parce que ça a été une chance de rééquilibrer la vie pro, vie perso. Et donc, aujourd'hui, il y a plein de formes de travail, quoi, en fait. Voilà.
Et chez l'entente d'entreprise, du coup, aujourd'hui, c'est hétérogène, ça dépend.
Voilà, donc on a des gens effectivement qui nous travaillent, on a des contrats de travail ou des gens travaillent depuis chez eux en fait.
Ouais.
Voilà, on a 4 ou 5 personnes à Rennes, à Strasbourg, à Marseille, à Tours et à Bordeaux qui travaillent depuis chez eux.
Mm-hmm.
Mais c'est des gens qui sont mindés comme ça, tu vois.
Mm-hmm.
Faut aussi être mindé, un peu loup solitaire.
Mm-hmm.
Puis après, faut retrouver des moments de convivialité pour.
Ouais.
Voilà. Et puis après, t'en as. Et puis l'entreprise, c'est pas que des gens qui sont. Collaborateurs et salariés chez toi.
Mmh.
Aujourd'hui, tu fais travailler un écosystème.
Mmh.
Nous, des fois, on a des graphismes indépendants, on a des web designers, on a des gens ça, on a des DA. Donc, on a tout cet écosystème qui fait que même s'ils sont pas salariés chez toi,
ouais.
C'est eux qui font tourner ton business, c'est eux que tu donnes du business, etc.
Mmh.
Donc, c'est important. Voilà. Et puis, en fait, aujourd'hui, des indépendants.
Mmh.
Aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui se lancent au niveau indépendant parce que tu as une compétence qui devient rare et donc tu peux te dire moi je prends une charge de travail en fonction de ça, tu vois. Il y a des sites comme Malt, en fait, des plateformes comme Malt qui ont explosé là-dessus parce que ça a permis de libérer le travail et de se dire à des gens comme les intermittents du spectacle, tu vois, aujourd'hui. Voilà.
Et du coup, les métiers qu'on retrouve dans une agence comme I2O, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce modèle d'agence de communication, marque employeur, quels sont les métiers qu'on retrouve chez toi? Comment tu as organisé l'entreprise?
Ouais. Alors, au-delà de la partie direction, comex, etc., aujourd'hui, on a, nous, des sales, en fait, des consultants, des commerciaux qui vont aller voir les entreprises, qui vont les conseiller, qui vont les suivre, etc. Donc ça, c'est la première étape pour aller chercher du business qui est essentiel.
Mmh.
Après, quelquefois, on peut adosser des experts, en fait.
D'accord.
Parce que les consultants ne peuvent pas tout connaître. Donc, on a des experts sur des brides qui peuvent t'aider sur la marque employeur, sur comment créer un site carrière, etc. Donc, eux, ils viennent en soutien, soit en avant-vente, soit en après-vente.
Avec
auprès
une
des...
approche conseil.
Ouais, exactement.
Mmh.
Derrière, on a une équipe de CSM, en fait. C'est
okay.
Hyper important.
Donc ça, CSM, c'est Customer Success Management. Ou
exactement.
Manager. C'est
exactement.
La partie comment j'accompagne mes clients et comment je fais de chaque projet un succès.
Exactement. Et puis, comme aujourd'hui, les entreprises veulent de plus en plus de data, donc il faut travailler la data, il faut l'expliquer, il faut la monter, etc. Donc la partie Customer Success, ils sont là effectivement pour réassurer les clients, les suivre. On va dire c'est le service après-vente, en
et
fait.
Et leur proposer peut-être de nouvelles choses en fonction de l'actualité.
Ouais, mais ça, on ne doit pas le dire, ça.
OK.
Oui, les customer succès, effectivement, aujourd'hui, ils ont beaucoup de choses. Donc, ils peuvent effectivement repasser la balle aux commerciaux.
Ouais.
C'est une relation pour dire, là, ton client, on a détecté un besoin. Effectivement, faut que tu puisses le revoir.
Après.
Et après, on a des métiers qui sont hyper importants aujourd'hui et qui, des fois, sont sous-valorisés. Moi, je dis toujours, et ça, c'est notre service ADV, en fait, administration des ventes, en fait.
D'accord.
Voilà. Et on a un métier qui dit toujours...
C'est le back-office un peu, non?
Bah, c'est toute la partie facturation, en fait, tu sais.
Ouais, ok. Ouais.
Et métier dit toujours, un bon client, c'est pas un client qui signe, c'est un client qui paye, en fait. Voilà.
C'est vrai, c'est important.
Voilà, c'est important.
C'est ce qui nous lie, finalement.
Exactement, parce que t'as beau faire plein de business, si aujourd'hui t'es pas payé ou t'es payé tardivement, etc., bah t'as beau faire plein de business, mm-hmm. si l'argent rentre pas,
ça crée des... ouais. Bah, les bons comptes font les bons amis.
Exactement. Bon business, voilà, voilà.
C'est vrai.
Donc
quand on, tu vois, nous c'est quelque chose qu'on peut percevoir. On est encore une jeune structure. Quand t'es payé à 60 jours et qu'on fait traîner,
ouais.
Comment tu veux nous demander du résultat si toi de ton côté t'es pas carré? Et au-delà de te donner les moyens de faire de cette collaboration un succès, commence par payer correctement tes clients fournisseurs.
Exactement. Et puis bah, il faut bien prépayer tes collaborateurs. Donc, ouais. Tu ne vas pas leur payer en disant « Bon, je t'ai fait le bulletin de salaire, puis je verrai quand, ouais. Quand j'aurai de la trésorerie.
Ouais, »
en fait.
Voilà. Ouais.
Donc, effectivement, c'est un travail où il faut faire de la facturation, ouais. Faut appeler les clients, faut les relancer.
Parfois du recouvrement.
Bah, exactement. Ouais. Et de leur dire « Monsieur le client, vous n'avez pas payé, donc ça serait bien. » Voilà. Ouais. Donc, c'est un travail des fois un peu ingrat. Et puis, il faut manier le relationnel encore plus fort. Quoi. Voilà. Mm-hmm. Et après, ce n'est pas les mêmes interlocuteurs. Et puis surtout… Bah, quand c'est des petits groupes, ça va, mais quand c'est des grands groupes, voilà, ou quand c'est la fonction publique, oui, mais effectivement, tu n'attends plus que 60. Ouais, voilà.
Tu dois avoir des super clients, quand même, des gens qui bossent avec toi depuis de nombreuses années.
Alors, j'ai des clients qui sont hyper fidèles, et ça, j'en suis fier, effectivement. Et tu vois, même si nous, on a pris une place de leader sur notre marché,
ouais,
on s'était posé la question quand le consultant nous avait challengé sur qu'est-ce que vous voulez devenir, en fait. Il nous a dit, mais vous savez, il y a des grandes tôles qui ont laissé tomber tous leurs clients et se sont concentrés sur les plus grands groupes, etc. Donc, avec Yvan, ça nous avait un peu tracassé, tu vois. Et en fait, on s'est dit…
Yvan, qui est ton associé.
Qui est mon associé. Ouais. Avec aujourd'hui, il y a quatre personnes qui sont associées chez Deuxo.
D'accord.
Yvan, le directeur général. Vincent Baumal, qui est le directeur financier. Tu vois que la finance est hyper importante, en fait.
Ouais.
Voilà. Et puis, un collaborateur qu'on a fait venir, parce que moi, dans 15 ans, je vais arrêter. Donc, je veux transmettre ma société à mes collaborateurs.
Trop bien.
Donc, effectivement…
Partager la valeur.
Exactement. Donc, aujourd'hui, on a Jonathan qui a été un super sales, qui aujourd'hui, maintenant, est directeur commercial chez nous.
Okay.
Voilà. Moi, je fais partie de ces patrons de gauche qui veulent remettre effectivement la méritocratie au centre de la réussite, en fait.
C'est voilà. Pour penser à quelqu'un.
Exactement, exactement, tout à fait. C'est pour ça qu'Anthony, je l'ai bien aimé, oui. Anthony Bourbon.
Super.
Voilà.
Ça fait 41 minutes. On a beaucoup parlé d'Idozo. Et Olivier, à côté d'Idozo, c'est qui, du coup?
Alors, Olivier, alors, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais c'est vraiment une réalité. Parce que derrière une réussite, il y a toujours... toujours moi, une famille, en fait. Mmh. Voilà, ma femme, parce que je t'ai dit, tu commences à 33 ans, tu laisses ta femme avec 4 enfants. A posteriori, les 10 premières années de ta boîte, tu vois pas trop tes enfants, en fait. Voilà.
Ouais.
Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses.
T'es dans le guidon.
Voilà, donc tu les vois pas grandir. Donc ça, c'est un peu mon regret, tu vois.
Mmh.
Mais aujourd'hui, je me rattrape plutôt très, très bien avec eux,
c'est
quoi.
Super.
Voilà. Mais effectivement, bah, moi, ma muse, ça a été ma femme, quoi, tu vois.
Ouais.
Voilà, ça a été celle qui m'a poussé. Et on rigole toujours chez Deuxo parce qu'il y a le COMEX qui bosse. Et puis, on dit toujours, il y a le CODIR en haut qui décide, en fait. Voilà. Et le CODIR, c'est ma femme et mes enfants, en fait, aujourd'hui,
ouais.
qui ont grandi avec, qui eux ont grandi, qui ont ouais. grandi avec la boîte. Hein, voilà. Mais surtout, ce que moi, quand je dis que je veux redonner ma boîte aux collaborateurs, je veux pas redonner ma boîte à mes enfants, en fait. Je veux pas, parce que ça a
tu
été.
Tu veux les laisser voler de leur propre.
Exactement. Ailes, je veux qu'ils aient leur propre parcours, leur propre réussite.
Ouais.
Et parce que des fois, donner une boîte, c'est, on a vu des boîtes, hein, qui, des boîtes vendéennes qui sont transmises de génération en génération.
Mm-hmm.
Mais moi, j'ai envie aussi de, qu'ils aient leur propre univers. Alors, les aider à monter leur entreprise, ce que j'ai fait avec mon fils, qui est plutôt dans l'univers de la musique. J'ai la chance de pouvoir l'aider là-dessus. Et lui dire, voilà ce que c'est un comptable, etc.
Ouais.
Mais j'ai envie qu'ils créent leur propre aventure, en fait.
Ouais.
Et Idozo, c'est mon aventure.
Ouais.
C'est l'aventure de mes collaborateurs. Mais je veux qu'eux créent leur propre aventure, en fait.
Qu'il y aura un début et une fin, plus ou moins.
Exactement, okay. Exactement.
Super, voilà. Hyper inspirant. C'est un chouette parcours, quand même.
Merci, Paul.
Beaucoup d'enseignements, non?
Ouais, merci.
Beaucoup de transpiration aussi, non? Beaucoup d'efforts, de sacrifices.
Ouais.
Le podcast s'appelle « Le futur, c'est maintenant ». Je t'en ai parlé tout à l'heure en intro. Je l'ai appelé comme ça parce que je pense que le monde il bouge tellement vite et qu'il faut passer à l'action tout le temps. Et je sais pas, qu'est-ce que ça te t'inspire, qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça évoque en toi, le futur c'est maintenant.
Le futur c'est maintenant dans mon domaine.
Dans ton domaine.
Dans mon domaine effectivement, et voilà, il y a une très grosse transformation, ce que je te disais. Demain on recrutera en fonction des compétences. Voilà.
Plus que sur le CV.
Plus du CV, ouais. Plus de choses comme ça, c'est les compétences.
Plus que sur le diplôme.
C'est exactement. Ouais, ouais. C'est les compétences. Et même des fois, ça peut être le personal branding. Ouais. Tu vois, voilà. Travailler son réseau en amont, ouais. Faire un bon personal branding. Des fois, aujourd'hui, tu as des boîtes qui embauchent des gens parce qu'ils ont 50 000 personnes sur TikTok. Et en fait, ils ont vu que. Ils étaient capables de déjà gérer une communauté, etc. Mmh. Donc, en fait, faut travailler, le candidat doit travailler son branding, ouais. Doit travailler sa personnalité.
Tout le temps.
Et voilà, exactement. Et puis, doit mettre en avant ses compétences, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut apporter ? Des fois, on n'a pas, au départ, on n'a pas toutes ses compétences, mais la motivation, c'est une compétence, etc. Mais là, il faut cultiver et il faut se dire que demain, de toute façon, tu seras obligé de te remettre en question. Tout le temps en fait. Voilà.
Et pour la marque employeur d'une entreprise, c'est vrai que c'est très puissant que ce soit les collaborateurs finalement qui puissent faire relais, partager leur parcours, leurs enseignements, l'impact qu'ils génèrent sur le monde qui les entoure grâce à l'entreprise, versus la marque qui communique. Alors il y a des marques qui communiquent très bien, hein,
oui,
avec des super community managers, mais on s'identifie peut-être plus à un humain, un individu, versus
exactement.
Un logo. Donc sa marque employeur, ça passe aussi par. Peut-être l'aura des collaborateurs. Voilà.
Mais, tout à fait. Je pense que, tu vois, il y a beaucoup de monde qui s'interroge sur l'IA, en fait.
Ouais.
Mais nous, dans les ressources humaines, l'IA va permettre, effectivement, de gagner en productivité, de mettre des tâches récurrentes un peu plus de côté et travailler par l'IA. Mais le contact humain reste hyper important de se rencontrer, etc. Et ça, une machine ne remplacera pas ça, en fait. Voilà.
C'est la technologie au service de l'humain.
Exactement, tout à fait, et pas l'inverse.
On terminera là-dessus. Synchro. Super.
Si vous êtes encore là avec moi, c'est que l'épisode vous a plu, alors merci. Et si vous souhaitez m'encourager pour la suite et faire connaître le podcast, vous pouvez mettre une note avec 5 étoiles, le partager à votre entourage, et ça nous permettra ensemble d'inspirer un maximum de personnes. À bientôt.